Une semaine d'actualité, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue. Nous allons revivre les moments forts de la semaine écoulée grâce aux reportages de la rédaction et de nos correspondants dans le monde. Nous irons de Kiev à Gaza en passant par Kigali. Et pour commenter cette actualité, on est ravis d'accueillir Frédéric Ancel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique, professeur de relations internationales et de sciences politiques, et vous publiez « Les voies de la puissance » chez Odile Jacob, ce qui vous a valu de recevoir le prix du livre géopolitique 2022. Alors je précise qu'il s'agit des voies V-O-I-E-S, au sens de chemin. Est-ce qu'en écrivant ce livre, vous aviez envie de réhabiliter le concept de puissance qui a aujourd'hui une connotation assez péjorative ?
La réponse est oui, chère madame, absolument. C'est très important. Vous savez, lorsqu'on travaille sur la géopolitique, en réalité, on travaille nécessairement de manière plus ou moins consciente sur ce qui sous-tend la géopolitique et de manière plus générale, les rapports entre les sociétés, parfois même les rapports entre les gens, c'est-à-dire bien sûr la puissance. Et je pense qu'on a tort de faire de ce terme une expression finalement intrinsèquement négative ou performativement négative. En réalité, la puissance n'est ni positive ni négative, tout dépend de ce qu'on en fait, hein. C'est toujours le même problème. Donc effectivement, j'ai voulu le réhabiliter, en tout cas la possibilité de faire de ce terme un concept positif. Et puis, vous avez raison d'évoquer l'orthographe des voies ES, mais je me suis aperçu qu'en réalité, lorsqu'un régime politique ou institutionnel empruntait les voies, donc le cheminement vers la puissance, eh bien, en général, il donnait de la voix. VOIX, c'est-à-dire qu'il avait un très fâcheux empressement à employer cette puissance qui, au départ, n'était éventuellement qu'un horizon.
Est-ce que le monde pourrait fonctionner sans État puissant ? Est-ce que les relations internationales reposent forcément sur des rapports de force ?
Oui. Les rapports de force sont à peu près partout dans les sociétés humaines. Et là encore, il ne faudrait pas que vos auditeurs voient ça nécessairement comme une nouvelle catastrophique. Je veux dire par là que les rapports de force peuvent être positifs au sens de l'émulation, au sens de l'amélioration d'un CV, d'une économie, d'une politique agricole, que sais-je encore. Donc les rapports de force ne sont pas nécessairement négatif. J'ajoute d'ailleurs un point très important. Les frontières, qui incarnent aussi un concept performativement négatif, à tort, les frontières, elles sont quasi systématiquement dans l'histoire le fruit de rapports de force. Hein. Il n'y a pas de frontières naturelles. Un fleuve n'a jamais rien décidé de quoi que ce soit. Donc, quand vous avez sur une crête montagneuse un fleuve, une côte, une forêt tropicale impénétrable, etc., lorsque vous fixez une frontière à ce niveau-là, ce n'est pas l'élément naturel qui l'a fait, c'est évidemment vous. Et vous, c'est-à-dire un État par rapport à un autre État, un clan face à un autre clan, etc., etc. Et j'ajoute d'un mot, si vous permettez, que depuis les traités de Westphalie de 1648 en Europe, après la guerre de 30 ans, en réalité, les États n'ont jamais cessé de constituer l'entité la plus puissante, hein, ou en tout cas l'entité, l'institution, si vous préférez, qui recherchait la puissance globale de manière permanente et de façon très jalouse d'ailleurs. Les États détestent que d'autres institutions, que d'autres organisations, aujourd'hui on parle des grandes entreprises, on parle des GAFA, on parle des ONG, des associations, des individus très riches, etc. Les États-nations détestent être concurrencés en termes de puissance globale par des non-États. Ça, c'est vrai depuis maintenant plus de 3 siècles.
Alors, comment se positionnent justement par rapport aux États, ces acteurs non étatiques que vous venez de citer et dont vous parlez dans votre livre, hein, des GAFA aux mafias, en passant par les fonds de pension, les multinationales, les grandes ONG ?
Eh bien, ils se présentent de manière essentiellement économique. Ce sont des acteurs qui, fondamentalement, à la fin des fins, sont moins, alors avec ou sans guillemets, moins idéologiques. Ils n'ont pas de vocation à incarner une idéologie ou un système par rapport à un autre. Ils ne revendiquent pas le statut d'empire, de monarchie, de république, que sais-je encore, de théocratie, que sais-je encore. Et en général, ils visent l'économie. Et même lorsque on a affaire, par exemple, à des seigneurs de la guerre, eh bien, ces gens-là peuvent parfaitement, et ils le font d'ailleurs de manière générale, peuvent parfaitement en appeler aux yeux du monde entier à la libération de tel territoire en fonction de telle idéologie, de tel idéal politique. Mais lorsqu'on gratte un tout petit peu, on s'aperçoit que les seigneurs de la guerre, eux aussi, en réalité, souhaitent essentiellement poursuivre des buts lucratifs. Donc, je dirais que la grande différence philosophique réellement fondamentale entre un État et un non-État, c'est que l'État assume, en principe, l'intégralité, la globalité de la puissance, autrement dit, y compris dans sa dimension politique et dans sa dimension économique. Tandis que les non-États, de manière générale, ne s'inscrivent pas dans la dimension politique, au sens hardcore, au sens stratégique et éventuellement militaire du terme. Et le mot est lâché, je le dis d'une phrase, les non-États, sauf exception, ne recherchent pas la puissance militaire, même si les mafias et les seigneurs de la guerre s'arment occasionnellement. C'était évidemment, comme je l'ai dit, pour des raisons, à la fin des fins, lucratives, beaucoup plus que politiques.
Alors, vous venez de citer le critère militaire. Quels sont les autres critères qui déterminent la puissance ?
Il y en a pas mal. La démographie est toujours un critère, d'une manière ou d'une autre. Alors attention, ça ne signifie pas qu'une démographie abondante ou galopante ou qu'une densité de population importante constitue nécessairement un plus. Vous avez des États qui aujourd'hui, dans le monde, pâtissent de, non pas de trop de citoyens au sens humain, bien évidemment, du terme, mais en termes stratégiques, puisqu'ils ne parviennent pas à nourrir, équiper, armer, a fortiori, ses citoyens, au fond, c'est plutôt un handicap qu'un point positif.
Par exemple.
Prenons très clairement l'exemple de l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui, dont la démographie est galopante, puisqu'on reste à un taux de fécondité scotché à 4,5 ou 5, l'économie égyptienne ne parviendrait pas aujourd'hui, si l'Égypte devait entrer en guerre, quel que soit d'ailleurs son vis-à-vis, elle ne parviendrait en aucun cas à subvenir aux besoins, non seulement militaires, mais sans doute aussi civils, d'une grande partie de sa population. Et c'est vrai dans pas mal d'États d'Afrique subsaharienne, et pas seulement dans des États arabes. C'est vrai aussi dans des États asiatiques, je pense par exemple au Bangladesh ou au Pakistan. Donc vous voyez, le critère démographique, si vous voulez, comme critère de puissance, n'est pas nécessairement, ne fonctionne pas que dans un sens. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'hommes, y compris d'ailleurs sur un champ de bataille. Vous savez que Bonaparte remportait la quasi-totalité de ses victoires en infériorité numérique. Bon, les Israéliens ont remporté leurs victoires dans les années 40 jusqu'aux années 80 en infériorité numérique. Sparte, pareil, contre Athènes, etc., etc. Donc la démographie, c'est l'un des critères. Vous avez bien évidemment l'économie et en particulier les ressources naturelles commercialisables qui vous permettent d'augmenter vos richesses. Donc ça, c'est vrai notamment pour les tout premiers États, donc l'agriculture, puis ensuite le gaz, le pétrole, le charbon, que sais-je encore. Mais vous avez aussi, et j'insiste énormément là-dessus, le high-tech, la technologie de manière générale, et en réalité, l'adaptation aux nouveaux savoirs, en civil comme en militaire. Il s'agit là d'un moteur ou d'un booster, comme disent les jeunes en franglais, de puissance. L'adaptation au nouveau savoir, ce que j'appelle la valorisation du savoir, qui représente pour beaucoup d'États, par ailleurs plutôt faibles ou plutôt peu dotés ou mal dotés en richesses naturelles commercialisables, ça constitue pour ces États-là, alors je pense à des États comme Singapour, la Corée du Sud, la Suède, Israël, que sais-je encore, le Grand-Duché du Luxembourg, que sais-je encore, donc plutôt des États modestes au départ, la valorisation ou la survalorisation du savoir constitue toujours, à un moment M, un critère de puissance. Et on l'oublie trop souvent.
Frédéric Ancel, on va revenir tout à l'heure à votre livre, « Les voies de la puissance » paru chez Odile Jacob. Mais je vous propose maintenant de revenir sur les principaux événements de l'actualité internationale.
Sept jours dans le monde.
Pas de trêve dans la guerre et l'inquiétude qui grandit après de nouvelles frappes jeudi à Zaporijja, dans le sud de l'Ukraine. Frappes sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe, occupée par la Russie. Des frappes dont Kiev et Moscou se sont mutuellement accusées jeudi. RFI Kiev, Stéphane Sion.
La centrale d'Energodar est passée sous le contrôle des forces du Kremlin dès les premiers jours de la guerre, même si le personnel ukrainien continue d'y travailler sous régime d'occupation. Jeudi, le site de la centrale a été bombardé au moins 5 fois sans faire de victimes, mais selon l'opérateur ukrainien Energoatom, plusieurs capteurs de radiation ont été endommagés alors que des substances radioactives étaient situées juste à proximité. Les autorités russes accusent l'armée ukrainienne, mais l'Ukraine, quant à elle, martèle qu'elle n'a en aucun cas aucun intérêt à déclencher une catastrophe nucléaire sur son propre territoire. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'armée russe a stocké des armes à Energodar. Et depuis le site, elle bombarde très durement les villes de Nikopol et de Marganets sur l'autre rive du Dniepr, contrôlée par les Ukrainiens. Jeudi soir, le président Volodymyr Zelensky a dénoncé le chantage nucléaire russe et il a estimé que seul le retrait des Russes de toute l'Ukraine garantirait la sécurité nucléaire pour toute l'Europe. L'AIEA, quant à elle, a demandé à l'ONU de mettre en place au plus vite des inspections du site, qu'il fallait créer un périmètre démilitarisé aux alentours de la centrale, mais avec la grande bataille pour le contrôle du sud de l'Ukraine qui se profile dans les régions de Kherson et de Zaporijia, toutes les craintes sont permises.
Frédéric Ancel, est-ce que les Russes jouent avec le feu en se servant de la centrale de Zaporijia comme d'un bouclier ?
Ils jouent avec le feu s'il y a, de leur part, un vrai dilettantisme, un vrai manque de sérieux, de protection, de sécurité autour de cette centrale. Je veux dire par là que je doute quand même que le Kremlin, dirigé par un homme extrêmement brutal et qui, pour le coup, sur l'affaire ukrainienne, s'est trompé, qui a mésestimé alliés et ennemis, n'est quand même pas quelqu'un de dénué de raison. Et il sait parfaitement qu'en se comportant de manière irresponsable autour de cette centrale, s'il devait y avoir un accident de guerre, en quelque sorte, catastrophique, d'abord les retombées seraient épouvantables, y compris, voire surtout sur le territoire russe lui-même. Le vent ne s'arrête pas aux frontières, hein. Et encore moins au front militaire. Et d'autre part, ça ferait entrer le monde dans une nouvelle ère nucléaire, avec sans aucun doute à ce moment-là, à la tête de l'OTAN, l'introduction d'une nouvelle doctrine d'emploi du nucléaire. Bon, mais ça, je pense que Poutine sait très bien qu'à ce moment-là, le rapport de force ne serait pas en sa faveur et que sa propre population lui en voudrait beaucoup. Donc, j'ose espérer que ce n'est pas un vrai bouclier, en quelque sorte, ou en tout cas qu'il ne joue pas, pour reprendre votre très juste expression, avec le feu. Néanmoins, ça dit quand même quelque chose de la faiblesse de la Russie. Vous savez, dans mon ouvrage, je parle beaucoup des grandes puissances riches et des grandes puissances pauvres. Et je dis que la Russie est une grande puissance pauvre. Eh bien, regardez à quel point, sur le plan stratégique et militaire depuis le 24 février, la Russie est obligée d'utiliser les armes du pauvre, en réalité, qui ne sont pas dignes d'une grande puissance, c'est-à-dire des mercenaires extérieurs et intérieurs, c'est-à-dire des empoisonnements d'opposants, c'est-à-dire des menaces sur la sécurité des opposants et ceux qu'ils appellent les nazis à Kiev, et aujourd'hui, des menaces sur une centrale nucléaire civile. Enfin, écoutez, tout ça n'est pas sérieux du point de vue d'une grande puissance, hein. Et là, on a, je pense, non pas une démonstration de force avec cette centrale, mais une démonstration de faiblesse.
Ça veut dire qu'il a présumé de sa puissance. Ses plans ne se déroulent pas du tout comme il l'avait prévu.
C'est exact. Il a présumé de sa force. Il a surtout sous-estimé, donc il a mésestimé l'importance ou la profondeur de la conscience nationale ukrainienne. Il a surestimé le soutien de la Chine, hein, qui ne soutient pas sérieusement la Russie, et certainement pas d'un point de vue militaire. Il a mésestimé en la sous-estimant l'Union européenne. Il a mésestimé en le sous-estimant Joe Biden. Hein, je pense qu'il a trop cru à la propagande électorale de Trump faisant de Joe Biden Sleepy Joe, hein, je ferme les guillemets. Et en fait, sur cette crise, ce n'est pas du tout Sleepy Joe. Donc, oui, Poutine s'est trompé et la défaite stratégique a déjà été consommée lorsqu'il a échoué à convaincre toute ou partie de la population ukrainienne, y compris dans les zones russophones, hein, qu'il venait avec son armée les libérer de la décadence occidentale, là encore, je mets des guillemets. Bon, donc il y a eu un échec stratégique et il est en train de tenter, avec un certain succès d'ailleurs, hein, de pallier cet échec stratégique par un succès tactique, c'est-à-dire avec moins de territoires conquis, bien sûr, avec l'abandon de la cible, enfin de Zelensky et du pouvoir ukrainien comme cible, hein, bon, c'est assez fichu, hein, pour la Russie aujourd'hui, et avec donc les craintes imposées aux Occidentaux et ces menaces nucléaires, civiles ou militaires, permanentes de sa part. Bon, mais encore une fois, tout ça ne vise plus maintenant qu'à un succès modeste, c'est-à-dire tactique, puisque la défaite stratégique, elle est consommée.
Donc vous êtes persuadé qu'il pourrait revoir à la baisse ses objectifs en Ukraine et se contenter d'occuper ou d'annexer les régions russophones de l'est de l'Ukraine ?
Absolument. Je pense qu'il n'en est pas loin d'ailleurs. Je pense qu'un objectif tactique à peu près cohérent et raisonnable quand même serait l'ouest du Donbass qu'il est en train de grignoter. Hein, on est là sur des territoires très petits, hein, on est sur quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés, c'est pas beaucoup. Et il est en passe de conquérir l'ouest du Donbass. Et le reste, il l'a déjà pris, enfin le reste tactique, hein, c'est pas immense, mais c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire la façade maritime orientale de l'Ukraine, hein, sur la mer Noire. Bon, si vous ajoutez la cerise sur le gâteau du blocus sur Odessa, qui lui permet de même pas avoir besoin de perdre des hommes à tenter d'envahir Odessa, si demain l'ouest du Donbass passait totalement sous son contrôle militaire, je pense, je peux me tromper par optimisme, mais je pense que Poutine proposerait à ce moment-là un cessez-le-feu, parce qu'il pourrait se retourner vers sa population et ses rarissimes alliés avec malgré tout environ 20% du territoire ukrainien conquis et territorialement de manière à peu près cohérente. Donc je vous dirais que là, c'est quelque chose qui pourrait effectivement lui permettre de sortir de cette guerre, allez, on va dire la tête relativement haute.
Au Proche-Orient, après 3 jours d'un déluge de feu, l'armée israélienne et le djihad islamique palestinien ont conclu une trêve dimanche soir. Selon les autorités de Gaza, enclave contrôlée par le Hamas et sous blocus israélien, 16 enfants figurent parmi les 46 personnes tuées dans les bombardements de Tsahal, chiffre contesté par l'État hébreu. Notre envoyée spéciale Alice Froussard s'est rendue lundi à l'ouest de la ville de Gaza, dans le quartier d'Al-Rimal, où certaines familles palestiniennes ont tout perdu.
De cet immeuble de 3 étages, il n'y a plus grand-chose, seulement des décombres, une montagne de sable et tout ce qui est partiellement debout manque de s'effondrer. C'était là où vivait Khadra Khalifa, 62 ans.
On a littéralement quitté la maison pieds nus. Nous avons tout laissé derrière nous, tout ce qui nous appartient, même nos téléphones. Tout était dans la maison quand on a dû partir. J'ai dû acheter un habit de prière, juste parce que je n'ai plus aucun vêtement.
Elle raconte les 5 minutes avant que l'armée israélienne ne bombarde sa maison. Le stress, la peur. Depuis, elle, ses 4 enfants, ses petits-enfants vivent chez sa sœur.
Nous, à Gaza, nous n'avons pas de travail. Nous avons un blocus. Nous n'avons pas d'électricité. Nous avons tout perdu. Nous sommes des civils. Nous n'avons rien à voir avec n'importe quel groupe politique ici.
Essam Matrabouche, lui, est le gérant d'une des 3 petites échoppes du rez-de-chaussée de l'immeuble, réduite à l'état de gravat. Il ne sait pas comment il va s'en sortir financièrement.
Je sais que je ne suis ni le premier ni le dernier, mais je veux demander à la communauté internationale de me donner une nouvelle boutique pour travailler. C'est la seule chose que je demande.
Et il le précise, nous n'avons pas de rêve à Gaza, il n'y en a pas, nous voulons juste vivre en paix. Alice Froussard, Gaza, RFI.
Les dirigeants israéliens ont justifié leur offensive sur Gaza en invoquant des frappes préventives pour éliminer les leaders du djihad islamique palestinien. Là, on n'est plus dans le droit de se défendre. Frédéric Ancel, est-ce que des frappes préventives sont un abus de puissance ?
C'est un abus de puissance lorsqu'il s'agit de frapper au cœur d'une population civile et d'une très grande densité de bâtis. Je connais très bien la bande de Gaza, c'est l'une des densités les plus fortes au monde. Et par conséquent, vous n'avez quasiment aucune chance de ne toucher que des cibles militaires, si tant est que ce soit réellement des cibles militaires. Donc de ce point de vue-là, la réponse est oui. Et surtout, lorsque vous dites « les dirigeants israéliens », c'est intéressant votre présentation. Alors bien sûr, elle est juste, sauf qu'aujourd'hui, qui sont les dirigeants israéliens ? C'est-à-dire qu'on va assister en novembre prochain à la 5e élection législative, donc élection générale, en 4 années. Donc on a affaire à un État, alors certes puissant, qui tente d'éliminer ses ennemis réels ou présumés, mais surtout une absence quelque part de responsabilité collective sur le plan politique, dans la mesure où l'instabilité politique devient instabilité institutionnelle ces dernières années, et ce qui malheureusement d'ailleurs éloigne plus encore la possibilité d'un véritable processus de paix, parce que ces frappes et ce nouveau regain de tension ont eu lieu, et je tiens à le dire et à insister beaucoup là-dessus, dans un contexte de vide. Vide politique total.
Donc c'était un enjeu il y avait un enjeu de politique intérieure derrière ces frappes.
C'est pas impossible. On assiste à ça, effectivement, souvent, non seulement en Israël, mais dans le monde entier. Là, à mon sens, c'est un tout petit peu tôt par rapport aux élections de novembre. Et puis, encore une fois, qui à ce moment-là, a souhaité, est-ce que c'est l'actuel Premier ministre qui n'est même pas sortant, mais qui en principe sera toujours Premier ministre en vertu d'un accord extrêmement compliqué sur lequel on n'a pas le temps de revenir, à savoir M. Lapide. Oui, mais de toute façon, son ministre de la Défense aujourd'hui, on ne le connaît pas encore. Donc tout cela est très... Si la réponse est oui, c'est très prématuré. Bon, et ça n'empêche pas le maintien d'une situation réellement délétère. Vous vous rendez compte que le dernier processus de paix, qui a eu lieu, ça va peut-être vous étonner, d'ailleurs, c'était sous l'égide de George Bush fils, vous voyez, bon, date de 2007. Nous sommes en 2022. Depuis, il n'y a eu aucun processus de paix. Et non seulement il n'y en a pas eu, mais du côté israélien, avec l'instabilité politique chronique dont je parlais il y a un instant, du côté palestinien, avec cette division très grave, en réalité, techniquement, l'autorité palestinienne est en guerre avec le Hamas, hein. Techniquement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, donc la très grave division chez les Palestiniens et dans les grandes chancelleries, le fait que ce conflit a été relégué au rang de simple contentieux, comme je le dis souvent, hein, ajouté à ça que même les chancelleries arabes, depuis les accords d'Abraham signés il y a un an et demi, ne s'intéressent quasiment plus du tout à la question israélo-palestinienne, malheureusement, à court et moyen terme, je suis obligé de vous dire que je suis pessimiste, parce que s'il n'y a pas non seulement une trêve ou un cessez-le-feu, vous savez, une trêve et un cessez-le-feu, ce sont des actes militaires. Hein. Alors évidemment, c'est mieux que le feu cesse. Bon, très bien, ça peut durer quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Mais fondamentalement, ce n'est pas le problème. Il faut un processus politique. Et là, je pense malheureusement qu'à court et moyen terme, donc, les conditions intérieures et extérieures ne sont pas, ne seront pas réunies pour la remise sur les rails d'un vrai processus de paix.
Et les États-Unis sous Biden n'ont pas l'intention de s'en mêler ?
Non, ils n'ont pas l'intention de s'en mêler parce qu'ils n'ont pas la capacité politique de s'en mêler, ou plus exactement, c'est ce que Joe Biden pense. D'abord, parce qu'il serait très en minorité s'il exerçait des pressions sur Israël aujourd'hui, puisque les républicains et une partie des démocrates d'ailleurs ne veulent absolument pas entendre parler de pression sur Israël, c'est le premier point. Deuxième point, sachant que lui-même n'est pas anti-israélien, bon. Mais deuxième point, et surtout, en pleine crise ukrainienne et en pleine crise taïwanaise, sachant que la deuxième, à mon avis, durera encore beaucoup plus que la première, et sans invoquer encore l'Indo-Pacifique de façon générale. Bon, vous comprenez bien que, sachant qu'il lui reste moins de 2 ans d'exercice du pouvoir, ça ne peut pas être sa priorité, ce n'est pas possible.
Alors on part justement pour les États-Unis avec cette victoire majeure cette semaine pour Joe Biden à 90 jours des élections de mi-mandat. Son grand plan anti-inflation, centré sur le climat, la fiscalité et la santé, a été adopté dimanche dernier par le Sénat. Au total, 430 milliards d'investissements, dont près de 370 pour le climat sur 10 ans. À New York, pour RFI, Loubna Anaki.
It's been a long, tough and winding road. At last, we've arrived.
La route fut longue, mais nous sommes arrivés. Face aux journalistes, Chuck Schumer ne cache pas sa joie. Le chef de la majorité démocrate au Sénat a mené lui-même les négociations durant un an et demi pour arriver à ce moment.
We've changed the world.
Nous avons changé le monde comme rarement on en a eu l'occasion. Notre plan réduit l'inflation, baisse les prix, crée des millions d'emplois industriels et augmente notre sécurité énergétique. C'est le plan le plus ambitieux de l'histoire américaine pour le climat.
Ce plan consacre en effet 370 milliards de dollars au climat, avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 aux États-Unis. Des crédits d'impôt sont notamment prévus pour l'achat de voitures électriques ou encore des subventions pour le solaire. Un plan ambitieux. Malgré tout, l'aile gauche du Parti démocrate Bernie Sanders en tête estime que de nombreuses mesures cruciales ont été sacrifiées lors des négociations. Le passage de ce plan, la pierre angulaire de la politique intérieure de Joe Biden, offre toutefois au président une victoire plus que nécessaire à 90 jours des élections de mi-mandat.
On reste aux États-Unis avec du jamais vu, la perquisition lundi par le FBI de la résidence d'un ancien président, en l'occurrence la somptueuse maison de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. RFI Washington, Guillaume Nodin.
C'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé dans un communiqué long et courroucé. Sa maison de Mar-a-Lago en Floride a reçu la visite d'agents du FBI, un raid aussi inutile qu'inapproprié selon le maître des lieux qui n'était pas là au moment de la perquisition. Les agents fédéraux ont été jusqu'à fouiller son coffre-fort, dit-il, ce qu'il compare à l'affaire du Watergate. Il dénonce une justice politisée visant à l'empêcher de se représenter en 2024 et ses partisans les plus zélés appellent à couper les vivres ou à démanteler le FBI. Ni la police fédérale, ni le département de la justice, ni la Maison-Blanche ne commentent l'information, mais plusieurs médias américains citent des sources proches proche de l'enquête pour dire que tout cela concerne l'affaire des documents emportés par Donald Trump après son départ de la Maison-Blanche et qui ont ensuite été récupérés par les archives nationales après un bras de fer judiciaire. Le fait de soustraire ou détruire de tels documents est passible de poursuites pénales. Donald Trump ne fait pas pour l'instant l'objet de telles poursuites, mais il y a quelques jours, le ministre de la Justice, Merrick Garland, expliquait que personne n'est au-dessus des lois.
Et sous la pression, Merrick Garland a finalement tenu jeudi une conférence de presse exceptionnelle. Le ministre de la Justice a expliqué avoir personnellement approuvé le raid du FBI, décision validée par un juge fédéral. Frédéric Ancel, Donald Trump crie au complot, il se pose en victime, le parti républicain fait bloc autour de lui. Est-ce que cette affaire est du pain béni pour l'ancien président qui a bien l'intention de revenir à la Maison-Blanche ?
Je vais vous dire, c'est du pain béni pour son propre camp. C'est-à-dire que Trump n'a jamais dépassé un tiers des suffrages des Américains, ce qui est déjà beaucoup, mais il n'a jamais, on l'a bien vu aux dernières élections, il n'a jamais réussi à réellement mordre sur un électorat modéré, et encore moins, bien évidemment, sur l'électorat démocrate. Autrement dit, je pense qu'on a plutôt une cristallisation des deux grands blocs aujourd'hui aux États-Unis, entre ceux qui sont, qui n'en démordent pas, qui seront en faveur de Trump, et qu'on retrouve malheureusement souvent chez les complotistes de tout poil et au Parti républicain. Je dis malheureusement parce que le Parti républicain aux États-Unis n'a jamais correspondu à ce qui est en train de se passer ces dernières années. C'était un parti parfaitement démocratique, un parti qui institutionnellement était aussi impeccable que le Parti démocrate. Et malheureusement, il est devenu extrêmement trumpiste ces dernières années, mais de toute façon, ça changera. En tout cas, pour l'instant, Trump, c'est du pain béni, oui, pour resserrer ses propres rangs, mais il est très vraisemblable que la majorité, sans doute assez importante des Américains, continue de faire confiance aux institutions. Et là aussi, c'est un point très important. Depuis ce fameux 6 janvier et l'assaut du Capitole, beaucoup d'observateurs considèrent, avec raison, que ce qui s'est passé traduit une vraie fracture, une déchirure de la société américaine et peut-être même un affaiblissement des institutions. Or, j'ai été et je reste plus que jamais de ceux qui considèrent que, à l'inverse, qu'il faut inverser le postulat, et que si aujourd'hui on en est là avec un FBI qui est capable, avec une justice américaine, qui est capable de se ressaisir et en obéissant bien évidemment aux lois, et d'aller perquisitionner chez un ancien président dont on est aujourd'hui à peu près certain qu'il a sinon appelé directement à la rébellion, en tout cas dont il a été complice, ce qui est extrêmement grave du point de vue de la loi américaine, si on en est là aujourd'hui, c'est quand même que les institutions créées par Washington, Jefferson et les autres auront été et restent extraordinairement solides. Moi, c'est ça, si vous voulez, qui marque ces dernières années, c'est finalement le verre à moitié plein, et c'est ces institutions démocratiques américaines qui tiennent le coup.
Un mot sur le grand plan anti-inflation de Biden. L'investissement des États dans la lutte contre le réchauffement climatique pourrait-il devenir un critère de puissance ?
C'est déjà un critère de prestige au sein des États et des sociétés, allez, on va dire globalement démocratiques, au sens très large du terme. Ça, c'est incontestable. Que les États-Unis en particulier restent ou redeviennent pour un certain nombre de populations, d'opinion publique dans le monde, un modèle, ça c'est pas mal pour les Américains, mais je nuancerai tout de suite mon propos. Je suis de ceux qui pensent que le soft power permet de faire passer la pilule du hard power, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sympathique aux yeux des opinions publiques que vous serez puissant. On peut être très sympathique et finir par se faire croquer. En revanche, ça permet de faire passer votre volonté de puissance par ailleurs sur d'autres théâtres d'opération. Maintenant, derrière cela, je pense que les États puissants, les États riches, ont un rôle par définition majeur à jouer. Si aujourd'hui vous demandez au Burundi de faire des efforts herculéens contre le réchauffement de la planète, c'est ridicule. Si vous demandez aux États-Unis de le faire et que les États-Unis le font, alors là, non seulement ça a un impact direct, mais, et pas seulement sur leur sol, mais pour la planète, mais en plus, ça a un effet d'entraînement très important. Donc je pense que ce qui vient de se passer est important, effectivement, du point de vue de l'image des Américains, des États-Unis dans le monde, qui a quand même été très, très dégradée ces deux dernières décennies, mais c'est aussi un plus en matière d'effet d'entraînement pour une bonne partie de la planète.
Nous sommes toujours en compagnie du géopolitologue Frédéric Ancel qui signe Les voies de la puissance chez Odile Jacob. Je vous propose à présent de changer de continent.
Sept jours en Afrique.
La tournée africaine d'Anthony Blinken s'est achevée jeudi à Kigali par un exercice d'équilibriste. La RDC attendait de sa part une condamnation du Rwanda suite au rapport de l'ONU dénonçant le déploiement de troupes rwandaises en RDC aux côtés des rebelles du M23. Finalement, le secrétaire d'État américain a renvoyé dos à dos les deux pays d'Afrique centrale. Le bilan de sa tournée avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard.
Les propos d'Anthony Blinken, qui a parlé d'informations crédibles et préoccupantes sur un soutien de Kigali aux rebelles du M23, ont été bien accueillis à Kinshasa. Deux jours plus tard à Kigali, le chef de la diplomatie américaine a tenu sensiblement le même discours, tout en prenant en compte les doléances du Rwanda, qui dénonce depuis le début de la crise une collusion entre l'armée congolaise et les FDLR, un groupe rebelle présent à l'est de la RDC depuis une vingtaine d'années et initialement créé par des génocidaires rwandais. Il y a des informations crédibles sur un soutien au groupes armés par toutes les parties, y compris les FDLR par les forces congolaises et le M23 par les forces rwandaises, a déclaré Anthony Blinken hier, ajoutant que le soutien à tout groupe armé doit cesser et que c'est une question de principe. À Kigali, le secrétaire d'État a également fait part de graves inquiétudes au sujet du respect des droits de l'homme au Rwanda. La nouvelle stratégie des États-Unis en Afrique subsaharienne, présentée par Anthony Blinken en Afrique du Sud le 8 juillet, met l'accent sur la promotion de la démocratie et la lutte contre l'autoritarisme.
Est-ce que le Rwanda est pour les États-Unis un allié à ménager, Frédéric Ancel ?
Oui, c'est un allié à ménager pour des raisons d'abord stratégiques et militaires. Hein, ça peut paraître étonnant lorsqu'on regarde une carte, il ne faut pas toujours se fier exclusivement aux cartes géographiques. Hein. Le Rwanda, c'est tout petit, mais l'armée rwandaise, partout où elle se déploie, est considérée comme absolument redoutable, comme bien, comme très disciplinée, comme bien équipée, comme dotée d'un haut niveau de conscience politique et du Darfour au Mozambique, en passant par ses propres frontières. C'est une armée qui est redoutable et redoutée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a affaire avec Paul Kagame à quelqu'un qui a toujours été proche des États-Unis. Il a été formé militairement aux États-Unis et même si il ne met pas tous ses œufs dans le même panier, comme en général le font les chefs d'État avisés, jusqu'à présent en tout cas, hein, depuis sa prise de pouvoir en 94, il a quand même été très proche des Américains. Donc de ce point de vue-là, les Américains en ont besoin. On peut même ajouter d'ailleurs que c'est sans doute sur le plan économique un futur dragon de l'Afrique, avec une croissance très importante, avec du gaz naturel dans le lac Kivu, et surtout, ce que j'appelais tout à l'heure en début d'entretien, une valorisation du savoir en l'espèce technique et technologique, très appréciée par les Américains, au Rwanda, qui d'ailleurs, là aussi, nouvelle cerise sur le gâteau, a rejoint le Commonwealth quand même, hein, il y a quelques années. Donc oui, Blinken voulait ménager le Rwanda. On peut même ajouter que de toute façon, on peut difficilement faire autrement quand on est américain, parce que en 1994, pendant le génocide dont ont été victimes les Tutsis et certains Hutus modérés, les Américains ne sont pas intervenus. C'est même le moins qu'on puisse dire, ce qui reste quand même en travers la gorge de beaucoup de Rwandais.
Et c'était Bill Clinton qui était au pouvoir à l'époque. Anthony Blinken s'est défendu de vouloir contrecarrer l'influence russe sur le continent. Mais le fait que sa tournée en Afrique intervienne juste après celle de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, ne relève sans doute pas de la coïncidence.
Non, j'apprécie votre doux euphémisme. Non seulement on n'est pas dans une coïncidence, mais vous savez, même le président de la République française, Emmanuel Macron, a fait une tournée récemment, hein,
absolument.
En Afrique de l'Ouest. Les Américains sont extrêmement inquiets de la pénétration russe, ou plus exactement des mercenaires de Wagner, mais enfin, ce qui revient à peu près au même. En réalité, c'est tout cela a été téléguidé par le Kremlin en Afrique. Hein. Donc ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que on revient à une espèce de schéma de guerre froide, y compris sur le continent africain. Hein, lorsque les deux blocs à l'époque cherchaient bien évidemment à établir des amitiés, voire même des bases. Hein. Bon, alors l'Union soviétique avait évidemment perdu cette guerre-là, notamment en Afrique, mais aujourd'hui, effectivement, on est sur une inquiétude américaine qui s'est vue lors de la visite de M. Blinken.
Alors c'est l'histoire d'une élection où, curieusement, le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, a préféré adouber son adversaire historique, Raila Odinga, 77 ans, plutôt que son vice-président, William Ruto, 55 ans. Mardi dernier, 22 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes au Kenya pour 6 scrutins différents, dont la présidentielle. La commission électorale a jusqu'au 16 août pour annoncer des résultats qui s'annoncent très serrés. Des fake news ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et la fébrilité des Kenyans grandit. Le reportage de notre envoyé spécial Ariane Tiroir à Kisumu, ville fidèle à Raila Odinga.
L'ambiance est calme dans les rues de Kisumu ce jeudi. L'avant-veille, jour du vote, les sifflets et vuvuzela résonnaient en soutien Raila Odinga. Mais désormais, dans l'attente des résultats, la tension est palpable. Jared Otieno est assis sur le bord du trottoir devant sa moto-taxi. Il a les yeux rivés sur son téléphone.
Je ne me sens pas très bien, je suis stressé car on ne connaît pas encore les résultats de la présidentielle. Chaque média a des chiffres différents, c'est compliqué de savoir lesquels suivre. Surtout que c'est très serré, donc difficile d'estimer qui va l'emporter.
Quelques rues plus loin, assise devant son stand au marché de Chichua dans le centre-ville de Kisumu, Mildred Omondi s'impatiente. Elle aimerait voir les résultats arriver plus vite, car en attendant, les clients se font attendre.
C'est comme si tout était mis sur pause. Le commerce n'a pas repris, les gens veulent juste connaître le vainqueur. Ils sont tous scotchés devant leur télévision. Et d'ailleurs, la plupart des autres étals sont restés fermés.
Depuis son téléphone, la jeune femme saute elle aussi d'une chaîne de télévision à une autre.
Même si les résultats sont différents, je peux suivre l'évolution des décomptes, savoir où ça va. Ça permet aussi plus de transparence cette année, car je veux connaître le score de mon candidat. Je suis anxieuse, vraiment trop anxieuse.
La commission électorale a rappelé jeudi qu'elle était la seule à pouvoir annoncer le résultat final et a appelé les Kenyans à faire preuve de patience.
Frédéric Ancel, depuis 2002, toutes les élections au Kenya ont été contestées. En 2007, les violences post-électorales après la victoire de Mwai Kibaki avaient fait 1200 morts et 600 000 déplacés. Pourquoi notre modèle démocratique a-t-il tant de mal à fonctionner en Afrique ?
Alors, là, c'est une question brûlante que vous posez. D'abord, ce n'est pas vrai qu'en Afrique, parce qu'en Asie, le modèle démocratique a parfois du mal à s'instaurer. Je ne vous parle même pas de la zone arabe, notamment depuis le printemps arabe. Mais, pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, vous avez un élément que je considère comme étant extrêmement négatif du point de vue de la possibilité d'une stabilité et d'une démocratie, c'est le clanisme. Le clanisme et le tribalisme. C'est-à-dire que l'idée même d'État-nation a été plaquée par les anciens colonisateurs européens, essentiellement d'abord français, allemands, puis bien évidemment britanniques, belges, etc., portugais. Et en fait, il n'a que très artificiellement ou très superficiellement pris. Alors je ne dis pas que c'est un modèle universel génial. La nation peut mener aux pires extrémités, on l'a bien vu en Europe. Je n'en suis pas un parangon, je le suis dans un cadre évidemment démocratique. Mais le problème, c'est que si vous ne choisissez pas le sens de l'intérêt collectif et que vous privilégiez lorsque vous arrivez au pouvoir votre famille, votre clan et votre tribu, c'est-à-dire un ensemble de clans matrimonialement liés, vous allez créer des frustrations. Et les richesses que vous allez pouvoir capter, les richesses que produisent votre pays, bien, vous allez en faire quelque chose qui sera exclusivement au bénéfice de votre clan ou de votre tribu, et surtout, ça va être dépensé à l'extérieur. Pourquoi ? Et c'est le deuxième problème, qui est très lié au premier, parce qu'on ne valorise pas suffisamment le savoir. Vous savez ce qu'on appelle en géopolitique la malédiction du pétrole, c'est un concept auquel je tiens beaucoup, qui est en fait la malédiction de la rente, de manière générale. Et lorsque, en Afrique comme ailleurs, mais peut-être plus particulièrement en Afrique ces dernières décennies, lorsque des pouvoirs politiques comptent essentiellement sur la rente, eh bien vous avez un double effet négatif, c'est-à-dire que les compagnies étrangères qui vous permettent de prospérer parce qu'elles exploitent votre gaz, votre pétrole, votre lithium, etc., bon, au profit de votre État, eh bien, cette rente-là, elle va vous permettre de ne pas chercher à créer alors des écoles d'ingénieurs, des écoles d'architecture, des écoles de médecine, et que sais-je encore. Et si vous voulez, la conjugaison des deux mène à peu près à chaque fois au pire, et malheureusement, oui, c'est vrai, peut-être plus en Afrique subsaharienne, notamment depuis les années 90, qu'ailleurs, avec des drames absolument apocalyptiques. Tout à l'heure, on évoquait le génocide des Tutsis rwandais, même si ce n'est pas lié à des richesses naturelles commercialisables et à de la rente. On a toujours cette ethnicité, ce clanisme et ce tribalisme qui, malheureusement, encore dans la plupart de ces pays d'Afrique subsaharienne, prévalent sur le sens de l'intérêt collectif, celui qu'on appelle généralement national.
En Guinée, le ton monte entre le FNDC et la junte militaire. Non seulement le Front national pour la défense de la Constitution a rejeté mercredi sa dissolution, annoncée 2 jours plus tôt par les autorités militaires de transition, mais il a décidé de maintenir son appel à manifester sur toute l'étendue du territoire le 17 août. Alexandra Brangeon.
Dans un communiqué, le FNDC dénonce ce qu'il qualifie d'intimidation, de harcèlement et de menace de la part de la junte au pouvoir, qu'il accuse d'être une mafia politique. « Nous ne sommes pas une association ou une organisation », indique Sekou Kunduno, membre de la coordination du FNDC, « mais un mouvement citoyen, un élan vers la justice et l'état de droit », ajoute-t-il.
Ce mouvement est né avant la nébuleuse CNRD, ce pouvoir illégitime et illégal, et continuera d'exister après la nébuleuse CNRD. Car le peuple de Guinée est prêt jusqu'au dernier souffle à défendre sa dignité et revendiquer le droit à une société juste.
Au gouvernement de transition qui accuse la coalition d'avoir recours à des actions violentes, Sekou Kunduno répond que le FNDC a toujours appelé à des manifestations pacifiques et ajoute que la violence est de l'autre côté de ceux qui utilisent des armes létales dans le maintien de l'ordre. Le FNDC qui appelle à se mobiliser massivement pour les manifestations à venir afin, je cite, de faire échec à une pérennisation du régime militaire en Guinée.
Frédéric Ancel, Guinée, Burkina, Mali, que vous inspire le retour des coups d'État militaires en Afrique ?
Alors, on assiste effectivement à un retour, ou plus exact, alors, retour ou maintien. C'est vrai que pendant environ deux décennies, cette espèce de caporalisme qu'on voyait déjà en Afrique subsaharienne après le départ, enfin après la première génération des hommes d'État arrivés au pouvoir lors du départ des colonisateurs, ce néo-caporalisme, allez, appelons-le comme ça, il est lié notamment, pas seulement, mais notamment à la situation socio-économique catastrophique que connaissent la plupart des populations africaines. Vous savez, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé a des oreilles. Et ventre affamé a des oreilles auprès de ceux qui, des populistes, qui lui font miroiter absolument n'importe quoi. Et c'est vrai d'une partie, alors c'est pas vrai de toutes, heureusement, de toutes les armées africaines, d'une partie des officiers dans une partie des États d'Afrique subsaharienne où la tentation du pouvoir acquis finalement assez facilement parce qu'on dispose des armes, hein, c'est pas plus compliqué que ça, au profit prétendu d'une population qui n'a pas assez à se vêtir, à se nourrir, à se soigner, à se loger, à prospérer, à se cultiver, etc. Eh bien, c'est une tendance qui malheureusement, effectivement, est à la mode. Et ça a été paradoxalement encouragé, c'est un faux paradoxe, hein, mais c'est important, l'adverbe est important. Ça a été paradoxalement encouragé par la fin de la guerre froide. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Washington, Moscou et la plupart des capitales européennes aussi d'ailleurs, hein, à partir des années 90 et 2000, au fond, se fichaient pas mal, hein, de la nature des régimes en Afrique et des éventuels coups d'État, pour une raison très simple, c'est que d'un point de vue stratégique, ça n'avait plus beaucoup de valeur, ça n'avait plus beaucoup d'importance. Donc je vous dirais que là aussi, par un faux paradoxe, on peut peut-être assister, je dis bien peut-être, en étant un peu optimiste, hein, on peut peut-être assister avec le retour d'une forme de guerre froide à finalement la volonté davantage de stabilité en Afrique de la part de certaines grandes chancelleries, hein, je pense à Washington, je pense à Pékin, je pense à Paris, etc., peut-être pas Moscou, en tout cas davantage de stabilité en vue du business, hein, c'est aussi bête que ça, qui pourrait du coup favoriser l'absence de ce nouveau caporalisme. Vous voyez, alors j'espère ne pas faire assaut de trop d'optimisme, mais je voulais quand même rappeler que c'était ce caporalisme, cette tentation était de retour depuis finalement la fin de la guerre froide. Elle l'était moins à l'époque de la guerre froide.
Sept jours en France.
Des pompiers et des canadaires européens dépêchés en renfort pour vaincre les murs de flammes qui dévastent le sud-ouest de la France. Le pays étouffe. Nouvel épisode de canicule hier avec des températures de 39 à 42 degrés. Aucune région n'est épargnée. Amélie Beaucourt.
C'est la troisième canicule de l'année, 13 jours maintenant que la France suffoque. Un nouvel épisode légèrement moins chaud mais qui traîne en longueur. Globalement, c'est juillet 2022 qui aura été le mois de tous les records. À Nantes, dans l'ouest du pays, le bulletin météo de l'année dernière annonçait aux vacanciers 29 degrés avec un vent léger. À la même période, cette année, le thermomètre affichait 42 degrés, du jamais vu dans cette ville de Loire-Atlantique. Les niveaux des cours d'eau sont historiquement bas, 93 départements sur 96 subissent des restrictions d'eau et près de 50 000 hectares sont partis en fumée selon les données satellitaires européennes. Et l'été n'est pas encore terminé. Les météorologues sont unanimes, conséquence tangible du dérèglement climatique, ces vagues de chaleur vont se multiplier. Dans les années à venir, le nombre de morts liées au stress thermique, quand le corps humain ne parvient plus à garder une température normale, risque même de doubler.
Frédéric Ancel, on ne peut plus faire l'autruche, hein, ça paraît clair. Face au réchauffement climatique, on ne s'en sortira pas sans d'immenses sacrifices.
Sans des sacrifices herculéens, absolument, de la part des grandes puissances, hein, les puissances évidemment les plus riches et technologiquement les plus avancées, pas seulement pour elles-mêmes mais pour toute la planète. Et je pense qu'il faut changer de temps grammatical. Il faut cesser de dire on va dans le mur ou il faudra faire ceci ou cela. On y est. On y est, et votre reportage l'indique extrêmement bien, c'est la région la plus tempérée, la plus douce du monde qui est en train de subir la pire sécheresse de son histoire. Donc si vous voulez, lorsque on évoque l'Europe occidentale, c'est déjà très problématique, hein, j'y suis moi-même, mais lorsqu'on évoque dans cette même période le Sahel, le golfe du Bengale, le golfe de Guinée et d'autres régions, on vit déjà et beaucoup plus cruellement encore le cataclysme. Hein. Et le comble, c'est que ce sont ces populations qui, en général, les pauvres, ont été les moins, ont été les moins responsables, hein, du dérèglement climatique. Et donc, si vous voulez, on y est dès maintenant, et je pense que on ne pourra rien faire seul. Je veux dire, chaque État chez lui, ça ne suffira pas, et il faut un grand plan global en réalité, hein. Global mais je veux dire mondial, parce qu'aujourd'hui le premier pollueur du monde de très loin c'est la Chine, l'Inde arrive juste derrière, donc les États-Unis, tout à l'heure on l'a évoqué, et Joe Biden a réussi à faire passer un plan qui est formidable, les Européens jouent aussi leur partition qui est positive, mais ça ne suffira pas. Il faut dès maintenant un plan global de type olympien.
Un seul film l'avait propulsé, star planétaire, Olivia Newton-John, héroïne de la comédie musicale Grease en 1978, s'est éteinte lundi dans son ranch en Californie, vaincue par son cancer du sein. Elle avait 73 ans. Frédéric Ancel, vous étiez enfant quand Grease est sorti. Avez-vous eu quand même un petit pincement au cœur en apprenant la disparition d'Olivia Newton-John ?
Oui, et même un gros pincement au cœur, hein, qui n'est pas lié qu'à ma Madeleine de Proust, hein, lorsque je réécoutais le générique de Grease, lorsque j'entendais mentionner le nom d'Olivia Newton-John, effectivement, ça me faisait quelque chose. Mais au-delà de ça, je pense que ce film clos en quelque sorte une décennie assez révolutionnaire d'un point de vue artistique. Je pense que la décennie 67-68 jusqu'à 78-79 restera une période de créativité exceptionnelle sur le plan artistique. C'est vrai sur le plan musical, mais c'est vrai aussi sur le plan notamment cinématographique. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, j'ai presque envie de vous dire que c'est un double pincement au cœur.
Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été notre invité. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Les voix de la puissance » aux éditions Audi Jacob. Merci à Sophie Janin qui a réalisé cette émission. Bon week-end à tous et portez-vous bien.
Littérature sans